Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, comme chaque après-midi. Et pour vous parler, eh bien, de football et bien entendu de ses préparatifs pour la Coupe du Monde. Les Bleus, installés en Russie dans leur hôtel champêtre d'Istra et à 4 jours de leur premier match, notre envoyé spécial Antoine Grenier nous racontera comment l'équipe de France prend possession des lieux et se prépare à entrer dans la compétition mondiale. Ils sont sur place, ces Bleus, mais quelles certitudes et quels doutes ont-ils emmenés dans leur bagage? Et dans ceux de Didier Deschamps, nous en parlerons. Le continent africain représenté par 5 équipes, leurs noms, je vous le rappelle, Égypte, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie. Nous en avons bien sûr suivi la préparation ces derniers temps, mais avant leur premier match, nous nous demanderons quelle est l'équipe d'Afrique qui a le plus de chances dans cette compétition et surtout laquelle peut aller le plus loin au vu bien sûr du groupe dans lequel elle est tombée. Enfin, nous nous demanderons quel joueur pourrait être une révélation, évidemment, en dehors du plus fameux d'entre eux qu'est Mohamed Salah. Et puis la chronique qui tourne autour du football russe et soviétique. Aujourd'hui, Régis Janté nous parlera du style des commentateurs dont le message durant un match n'était pas que sportif. Invité dans ce studio, il y a du monde aujourd'hui. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
À vos côtés, Marc Libra.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors, entre PSG et OM, on vous met à côté quand même.
Ouais, maintenant,
le temps a fait oublier, disons, les dissensions ou les oppositions. Karine Galli et Nabil Djellit. Bonjour, l'équipe
bonjour.
D'en face.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
C'est la dernière ligne droite. Le fait d'arriver dans le pays hôte, c'est un petit peu le compte à rebours et on va se préparer sereinement et tranquillement pour le match de samedi.
Hugo Lloris vous le confirme, l'équipe de France, comme la plupart d'ailleurs des sélections nationales qualifiées, est donc arrivée en territoire russe. Leur izba ou leur datcha, c'est selon, se situe à quelques 70 km de Moscou, dans la petite ville campagnarde d'Istra, là où les joueurs et leur encadrement va vivre donc cette compétition au moins jusqu'au 26 juin, et peut-être plus si évidemment elle passe peu à peu les obstacles des Bleus à l'abri des regards et des objectifs. Mais leur sélectionneur s'est montré aujourd'hui face à la presse, avant disons ses joueurs, et Antoine Grenier, qui suit les Bleus pour RFI, était donc dans la salle, un centre de presse dans un lieu un peu particulier me semble-t-il, Antoine Grenier.
Oui, la musique va bien avec le centre de conférence. Alors, c'est
racontez-nous
tout près effectivement de
pourquoi
d'un
on a
monastère
mis ces chants
orthodoxe. Alors, c'est
voilà.
C'est parce que le centre de conférence des Bleus est situé alors pas exactement dans un monastère orthodoxe, le monastère de la Nouvelle Jérusalem, qui est un bâtiment absolument gigantesque. C'est la taille de Notre-Dame de Paris, c'est blanc avec des colonnes blanche et verte.
Et des coupoles dorées magnifiques, apparemment.
C'est à couper le souffle. Le centre de conférence, c'est juste à côté, dans le musée du monastère.
Il y a moins d'icônes, donc.
Didier Deschamps y a effectivement donné ça. Il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus... En revanche, ça dépend ce que vous appelez des icônes, parce que la décoration est tout à l'honneur de l'équipe de France de football. Il y a des bienvenus partout, des panneaux en français, enfin bref.
Autres
on sait
icônes.
Que c'est l'équipe de France qui donne ses conférences ici.
Alors Antoine, plus sérieusement, cette équipe est donc arrivée, on vous a entendu sur les antennes RFI décrire ce lieu au milieu d'une forêt, un hôtel, alors je disais Isba ou Dacha, évidemment ça dépend du luxe qu'on attribue au lieu. En tout cas, quel va être le quotidien de cette équipe de France jusqu'à son premier match et jusqu'à Kazan donc, où elle rencontrera l'Australie?
Bah finalement, le quotidien de l'équipe de France à Istra, à Kostrovo très exactement, c'est là que se situe l'hôtel, c'est vraiment juste à côté d'Istra. C'est le quotidien des Bleus à Clairefontaine, c'est-à-dire des soins, c'est-à-dire de l'entretien physique. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut dans cette datcha ou cette isba, comme vous voulez, en tout cas dans ce gigantesque domaine. Il y a un spa, il y a un hammam, il y a un sauna, il y a des salles pour s'entretenir physiquement. Bref, les Bleus comme des coques en pâte, exactement comme ils le sont à Clairefontaine. Ils sont largement à l'abri des regards. La sécurité, d'ailleurs, a un petit peu fait rire Didier Deschamps. Il nous a confié une petite anecdote en conférence de presse. Il nous a dit que la sécurité était telle que Noël Le Graët, le président de la fédération, était sorti de l'hôtel pour un rendez-vous. Et au moment où il est revenu, il n'a pas pu rentrer parce qu'on ne rentre pas dans l'hôtel des Bleus, même quand on s'appelle Noël Le Graët.
Ouais, c'est un comble, effectivement. Alors, cette équipe, elle vient aussi de reconnaître la pelouse sur laquelle elle va s'entraîner ces prochains jours, c'est ça ?
Exactement, au stade de Glebovets, qui est un petit stade campagnard avec des tribunes couvertes, mais pas entièrement. D'ailleurs, lorsque la pluie s'est invitée au tout début de l'entraînement des Bleus, tout le monde s'est retrouvé un petit peu mouillé. Donc on s'est agglutiné sous ces petites... Ça ressemble à des serres, vous savez, où on fait pousser des tomates. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc toute la presse s'est agglutinée à cet endroit-là pour l'entraînement des Bleus. La pluie a cédé la place après au soleil. Donc il y a eu un joli arc-en-ciel, peut-être un signe pour l'équipe de France. En tout cas, entraînement studieux aujourd'hui sous l'œil de Didier Deschamps, le sélectionneur. Quelques petits jeux de ballon, un petit après l'échauffement, et puis une opposition à 10 contre 10 avec Steve Mandanda en meneur de jeu. Il était dans une chasuble de couleurs différentes des deux équipes. Alors ça m'étonnerait que ce soit un enseignement tactique pour les matchs à venir. Je pense pas que Steve Mandanda joue 10 à un quelconque moment. En tout cas, Kylian Mbappé a encore perdu. Donc il va encore être d'une humeur massacrante. C'est une habitude chez lui quand il perd. Il n'aime pas du tout ça, le Parisien.
Bon, et ben justement, parlons de ces Bleus, parce que samedi soir, ils disputaient leur dernier match de préparation et ils n'ont pas gagné. S'ils n'ont pas perdu, ils ont manqué un peu de réussite après leurs deux victoires face à l'Irlande et à l'Italie. Et bien les Bleus n'ont obtenu qu'un match nul. C'était face aux États-Unis.
Good. Avec un nouveau débordement et cette frappe et l'ouverture du score de Green à la 44e minute. 1-0 pour les États-Unis. Allez, continuez à espérer cette fois-ci avec ce décalage. Ouais. De Fekir, le centre, Mbappé. Ah, voilà l'égalisation. 78e minute, Kylian Mbappé. Un partout.
Et voilà, il s'en est resté à un partout sur le TF1 qui retransmettait ce match et dont vous entendez la voix des commentateurs. Certitude et doute, donc commençons par les doutes sur le premier but des États-Unis encaissé par la France depuis que ces deux équipes s'opposent. Didier Deschamps reconnaît que les défenseurs n'ont pas été tout à fait à la hauteur et c'était tout à l'heure justement à côté du monastère à Istra où il donnait cette conférence de presse.
Je suis pas d'une nature inquiète. Après, il y a des analyses après chaque match, pas forcément avec les mêmes joueurs, mais dans ces grandes compétitions, c'est pas penser qu'à défendre, mais la solidité défensive est importante. Toutes les équipes prennent des buts, alors des fois c'est le mérite des adversaires aussi. Évitons de leur offrir des opportunités comme ça a pu être le cas certaines fois.
Antoine Grenier, vous qui avez suivi ce match à Lyon, qui s'est terminé donc sur le score de 1-1, est-ce que la défense, disons, on sait que c'est le point faible de cette équipe de France, est-ce que ça vous a paru, vous aussi, inquiétant et peut-être à ceux qui vous entouraient samedi soir ?
Écoutez, si on doit paraphraser Didier Deschamps, il l'a dit en conférence de presse, on va même le citer plus que le paraphraser, ça a été le match le moins abouti de la préparation. Voilà, il y a eu le résultat, un partout. Ce qui est surtout inquiétant, c'est de se rendre compte que la paire titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, prend des buts à chaque fois qu'elle joue ensemble, sauf en Bulgarie en éliminatoire de Coupe du Monde. Et surtout, l'autre aspect inquiétant, c'est de voir que finalement, les vraies solutions défensives et offensives, elles sont venues des latéraux, et notamment de Benjamin Pavard, qui a délivré une passe décisive et qui a été très intéressant lors de cette rencontre, alors que les titulaires habituels ont été beaucoup moins en vue.
Et oui, et c'est la question qu'on va se poser ici, Habib Bey. Évidemment, peut-être qu'un match, le dernier match, avant qu'on ne parte vers le pays hôte d'une Coupe du Monde, on se souvient de certains événements par le passé, et on pense toujours à Djibril Cissé qui s'était cassé la jambe juste avant la compétition. Mais est-ce que selon vous, ça peut expliquer ce résultat en demi-teinte face aux États-Unis ?
Non, pas que. Ce qui est clair, c'est que ça arrive après une semaine avec une charge de travail importante, d'après ce qu'a dit Didier Deschamps. Ensuite, bien sûr, le fait de se blesser, c'est dans l'esprit des joueurs. Après, il faut regarder aussi l'animation globale, l'équilibre d'équipe qui n'est pas respecté dans ce match-là. Moi, je trouve qu'on pointe très souvent les défaillances individuelles d'une équipe. On parle d'Umtiti, de Varane, de Sidibé. Mais lorsque je regarde cette équipe et que je la vois évoluer, le problème, c'est qu'on est face aux États-Unis pour l'équipe de France, que cette équipe de France concède des occasions. Et ça, c'est pas logique. Je vois l'animation avec Griezmann en soutien des deux attaquants et tout pour moi, sauf une bonne idée. De considérer aujourd'hui que Griezmann va être le dépositaire du jeu de l'équipe de France. Et puis il y a quelque chose qui me titille un petit peu, c'est que lorsque je vois cette équipe de France, j'ai l'impression que tout tourne autour de Pogba et de Griezmann. C'est-à-dire qu'il faut mettre ces deux-là dans les meilleures dispositions possibles et l'équipe de France va tourner. Moi, à partir du moment où ils seront dans cet état d'esprit-là, ça risque d'être difficile pour eux au Mondial. Je pense qu'ils ont énormément de talent tous les deux, mais que de tabler cette équipe de France sur ces deux joueurs-là pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles, pour moi, c'est une erreur. Mais encore une fois, j'ai vu N'Golo Kanté courir partout parce que Matuidi et Pogba sont dans une optique de, pour Matuidi se projeter, pour Pogba faire le jeu, Griezmann ne défend pas, Mbappé ne défend pas, Giroud dans l'utilisation aussi avec ses partenaires, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Moi, je trouve que ce 4-4 de losange, tous les gens ont dit, ouais, contre l'Italie, c'était génial. Pour moi, c'est un trompe-l'œil. Quand on voit cette équipe d'Italie, elle est en reconstruction et que je suis pas sûr que ça soit le système préférentiel pour cette équipe de France.
Marc, est-ce que pour vous, c'est l'ensemble de l'équipe comme pour Habib ou plus précisément, les arrières, on va dire?
Non, mais c'est, je rejoins Habib sur, il y a deux joueurs qui doivent nous faire gagner, mais aujourd'hui, la règle d'or, c'est déjà, on ne prend pas de but. On joue face à une équipe des États-Unis qui est presque une équipe universitaire. Certains ont 18-19 ans, sont encore universitaires. Donc, quand on fait un contrôle comme Sidibé à 3 mètres, que ça soit un universitaire ou un U19 ou alors quelqu'un d'une sélection, il met au fond, quoi. C'est tout. Après, ce qui est dommage, c'est que on nous dit, oui, mais on les a fait travailler. Qu'on nous raconte pas de bêtises, ils ont eu jusqu'à 73% de possession de balles, il y a eu énormément d'occasions, et on nous dit, ah ben non, je suis pas inquiet. Moi, je suis plutôt inquiet, parce que cette équipe-là ne tourne pas forcément. Encore une fois, on nous dit, face à l'Italie, c'est une bonne prestation, mais face à l'Italie, on s'est quand même fait bouger. À des moments, on a disparu pendant presque 20 ou 25 minutes, sur la seconde période, on a disparu aussi, et on nous dit, tout va bien, vous inquiétez pas, ce système de jeu, pour moi, quoi qu'il arrive, ne convient pas, il faut qu'il y ait Giroud devant, pour mon cas, Giroud devant et Griezmann qui soit à ses côtés, puis qu'on arrête de dire Mbappé c'est le sauveur. Griezmann dit non, mais si Mbappé est bien, tout va bien, arrêtons de mettre de la pression supplémentaire. Et pour moi, il n'a pas été très bon, mais on nous dit, mais oui, c'est encore la référence. Attention de ne pas se tromper d'objectif, ça ne doit pas être le patron, et on est en train de se tromper.
Karine, bon, alors apparemment, il n'y a pas qu'à l'arrière qu'il y aurait des problèmes selon Marc et Habib. Et pour vous, comment avez-vous trouvé cette prestation de l'équipe de France, alors samedi, juste avant de s'envoler pour la Russie?
On est tous d'accord que cette prestation n'a convaincu personne, mais après, cette prestation, on l'a déjà vue, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que l'équipe de France, parfois, elle peut être brillante sur une mi-temps, elle peut être extrêmement médiocre, extrêmement désorganisée et ne pas proposer de jeu collectif. On a vu la face négative de l'équipe de France samedi parce que il n'y avait pas de jeu collectif. Et pour moi, c'est tout le monde dans le même bateau parce que on parle beaucoup de la prestation de Giroud, mais la prestation de Griezmann, à mes yeux, elle est aussi extrêmement décevante. Celle des latéraux aussi, les milieux de terrain aussi, comme le disait Habib. N'Golo Kanté, il n'est pas censé courir dans tous les sens en tant que sentinelle, mais il est obligé parce qu'il essaye de compenser tout ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas autour de lui. Voilà. Mais après, l'équipe de France en difficulté face à des équipes dites faibles, c'est pas nouveau, et surtout quand elle n'arrive pas à rapidement ouvrir le score, elle s'enlise et ça devient extrêmement difficile. Et puis après, je trouve qu'on en fait aussi un petit peu trop avec Mbappé, dans le sens où il a que 19 ans, c'est pas le leader de l'équipe de France, et il faut qu'il joue aussi collectif. Et samedi soir, on a vu qu'une relation, et encore une relation qui n'était pas forcément toujours bonne, entre Griezmann et Mbappé, alors que la relation, elle doit exister avec tous les joueurs. Et là, on avait eu un isolement absolu de Giroud. C'est bon pour personne, ni pour Mbappé, même s'il a marqué son but, et encore moins pour Giroud, parce que c'est notre attaquant numéro 1 aux yeux de Didier Deschamps, quoi qu'on en dise.
Je suis pas sûr que ça le soit aux yeux des autres joueurs.
Oui, c'est le problème.
Quand je vois certains comportements et quand je vois les combinaisons qui se passent sur le terrain, moi, je vois qu'à plusieurs reprises, on peut utiliser Giroud, et on l'utilise pas. On cherche Griezmann, on cherche Mbappé, et ça, c'est déjouer, et déjouer, c'est pas une bonne chose. Déjà, pour moi, l'ambiance générale d'un groupe, j'ai vu par exemple Pogba à chaque fois qu'il a essayé de servir Giroud, faire des petites moues, de regarder un peu à droite, à gauche. Je sais pas si ça soit bon pour l'équipe.
Ça peut être le dégât collatéral de ce système de jeu. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que Griezmann, je le vois pas à la construction, je le vois plutôt à la finition. Moi, j'aime bien ce système de jeu là, mais pas avec ces joueurs là. Ou alors, on fait un autre choix. Soit on décide de jouer avec Giroud et on fait un système comme on l'a fait jusqu'à présent, un 4-2-3-1 avec Griezmann à côté de Giroud, soit un 4-3-3 avec Giroud dans l'axe.
Mais là, il fait surtout pas... Nabil, cite-moi une équipe aujourd'hui en Europe qui joue en 4-4-2 en losange et qui domine son sujet.
Ouais, non, il y en a pas.
Très peu.
Après, très peu. Après, si on décide de prendre ce système de jeu là, bah tant qu'à faire, mettre les bons ingrédients. En plus, Giroud, il n'a pas été servi non plus par les latéraux en centre, donc lui, il a tout perdu sur ce match-là. Il a marqué des points, mais c'est plutôt des points de futur, le pauvre. Non, mais voilà. Alors, si par exemple vous me dites, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, vous mettez Fekir en 10, je sais que c'est pas d'actualité, c'est pas ce qui va se passer, et vous mettez Mbappé et Griezmann. Bon, bah déjà, je suis peut-être un peu plus emballé.
Ou
Lemar. Je prends plus en Fekir.
Donc pour vous, finalement, Didier Deschamps, il a toujours pas son 11. Enfin, il a dans sa tête son 11 de départ, mais pas forcément le meilleur.
Plusieurs systèmes. Mais après, on en fait trop avec cette histoire de système. Oui. On voit bien que ça change et qu'il y a toujours du mouvement et que le Mbappé, au final, tu peux même pas lui donner réellement une position parce qu'il est constamment en mouvement. Enfin, quand il est bon, parce que ce qu'on a vu effectivement cette fois, c'est qu'il se marchait dessus.
Voilà, c'est un embouteillage.
Mais c'est parce que dans la fin, les trois de devant, si on a trois, soient intelligents et qui permutent, comme ils le font par exemple.
Ouais, mais Giroud
au PSG,
peut pas dézonner.
Ou
en fait.
Comme ils le font parfois.
Balopi, il peut pas dézonner.
Non, mais d'accord, mais sauf que Giroud, c'est pas.
Si c'est Benzema,
pour moi,
Giroud,
c'est
pas
le problème de samedi, Giroud.
Non, moi je suis d'accord avec Karine. Là où t'as tout à fait raison, c'est pas le problème de Giroud. C'est un problème d'animation. Et je suis d'accord avec toi sur l'histoire du système. Je suis très souvent en train de dire que pour moi, le système n'est qu'une idée figée du football. Le vrai problème que tu as, c'est que dans ce système-là, ou dans cette animation-là, avec Griezmann en soutien des deux attaquants, la seule façon de pouvoir jouer comme ça, si t'as des latéraux qui sont très très forts, aucun problème. Sauf que si demain t'as une équipe qui va jouer cette équipe de France en 4-4-2 aux losanges, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à tes deux mecs excentrés d'élargir le milieu de terrain adverse, et que si t'as pas des latéraux qui sont forts, et c'est le cas pour l'équipe de France, je suis désolé, Mendy est un très bon joueur, mais aujourd'hui physiquement on sent que ça va être compliqué pour lui de tenir pendant 90 minutes. Sidy B, j'ai pas l'impression qu'il se dégage une confiance énorme. Il peut rater ce contrôle. On a tous raté des contrôles. Ça arrive à tous les joueurs d'aujourd'hui
au
monde. À Daniel Alves, ça lui est arrivé aussi. Ce que je veux expliquer, c'est qu'on sent pas une forme de sérénité chez lui lorsqu'il est en équipe de France. Quelqu'un qui est un patron.
Est-ce que vous préférez l'autre?
Mais ça, c'est un faux débat. Les gens qui te disent, oui, Pavard, il a fait deux passes décisives.
Ça a rien à voir. C'est pas l'intelligence. Moi, là, il y a un mot qui est Karine parlait d'intelligence. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a un joueur de l'équipe de France qui est intelligent sur le terrain? On en a pas.
Bah, N'Golo Kanté, quand même.
C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est que l'intelligence de jeu, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu te heurtes à un bloc. Personne a eu l'intelligence de se dire, et même pas Deschamps. Fait rentrer Fekir d'entrée, parce que dès que Fekir va rentrer, et je dis pas que Fekir doit être titulaire encore une fois, mais quand tu as un bloc qui n'est pas capable, tu vois que pendant 40 minutes, 45 minutes sur la première période, tu te heurtes à un bloc, pas capable un joueur de prendre au milieu du terrain, de dire, écoutez les gars, un défenseur, un milieu, écoutez, il faut monter, faut écarter au maximum, faut sortir, personne l'a fait, et Deschamps l'a pas fait, et on a vu du jeu quand d'un coup on dit c'est pas Pavard, c'est juste Fekir qui a fait un, deux crochets, et qui a décalé sur le côté, et le centre a été bon, c'est juste ça, c'est pourquoi on ne réagit pas. Et puis après, il y a plein d'interrogations. Karine parle de Lemar, mais il est où Lemar? C'est un phénomène. Lemar, il joue plus. Là, il a joué un peu l'Italie, puis il réapparaît là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Lemar?
Il a coupé les réacteurs quand même en cours de saison, Lemar.
Peut-être, mais on nous vend depuis septembre dernier, on nous dit Sidy B et Mendy, ce sont nos latéraux français. On a zéro souci.
Malheureusement, il y a des problèmes physiques pour les deux joueurs.
Le vrai problème, c'est que tu sais très très bien que dans ces compétitions-là, le plus dur pour un sélectionneur, c'est de faire des choix et de trancher. Et de trancher. Avec malgré le fait que tu aies des statuts, tu puisses demain dire je tranche, je peux pas jouer avec Mbappé, Griezmann, Giroud, tout le monde, je peux pas jouer avec Pogba.
Tu dois sortir.
Donc,
des choix.
Mais aujourd'hui tu fais des choix. Moi je suis pas aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, mais tu dois faire un choix dans ton animation. Et t'as l'impression aujourd'hui son animation, elle est en fonction de deux joueurs où il se dit il faut surtout pas que je les sorte, il faut surtout que eux jouent et soient contents de jouer. Moi je pense que c'est un danger. Le danger il est aujourd'hui de pas faire de choix lorsque t'es sélectionneur d'une nation comme l'équipe de France. Il pourrait arriver au mondial avec un manque de repères et je te dis aussi, ce qu'on a vu de Giroud, lui, peut-être que Giroud, au bout d'un moment, il va en avoir marre de voir les autres combiner et de l'oublier. Parce que c'était un petit peu
ils
ça qu'on faisait
avec lui. Hein. Ils ont toujours fait ça.
En fait, je vous posais la question, on a des doutes et des certitudes. J'ai l'impression qu'il n'y a que des doutes, qu'il n'y a pas de certitudes.
Non. Parce qu'on est, faut jamais oublier qu'on est dans des matchs de préparation aussi. Il faut relativiser un petit peu le contexte.
Mais tout ce que vous avez raconté, Nabil, ce qu'on va voir le prochain match, c'est, paraît-il, une équipe copie conforme de celle des États-Unis qui sera celle de l'Australie.
J'espère pas. Après l'Australie, c'est un profil d'adversaire qui va être regroupé. C'est sûr que un garçon
pareil que les États-Unis.
Un garçon comme Giroud, il est absolument, il peut être utile dans ce genre de match, mais peut-être pas dans ce système de jeu-là. On va pas. Vous me dites c'est pas une question de système, mais je suis désolé si tu mets Giroud, c'est quand même une question un peu de système pour le coup. C'est soit tu le mets dans des conditions préférentielles, ou soit tu décides de le tuer. Et tu décides de le tuer, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Donc moi je pense qu'aussi c'est quand même une. Je suis désolé, c'est quand même aussi une question de système de jeu. Pourquoi on n'a jamais joué comme ça? Ça fait deux ans, on joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, et puis subitement, juste avant les examens, on change de méthode de travail. Moi ça m'interroge. Alors j'espère juste une chose, Annie, c'est je me dis, bon, on est considéré parmi les favoris, je me dis juste peut-être qu'on est comme les équipes de Ligue des Champions en championnat, on sera prêt en septembre, c'est-à-dire que peut-être que le premier tour va nous permettre de nous ajuster pour réellement commencer en huitième de finale.
En huitième de finale.
Voilà, bon, on croise les doigts.
Faut l'espérer. Vous avez quelques certitudes, vous, Karine?
Oui, quand même. Enfin, moi, après, vous allez dire que, comme d'habitude, je suis pas objective, mais je crois quand même en Didier Deschamps avant tout, parce que j'ai l'impression aussi quand même que lorsqu'on parle de Didier Deschamps et du travail qu'il fait, on a l'impression que c'est le dernier pimpin et c'est vraiment le mec qui n'a rien compris.
Non, on connaît son passé et on connaît sa science.
Sauf qu'on est arrivé, je trouve, parfois dans des extrémités négatives au sujet de Didier Deschamps. Je trouve que effectivement tout n'est pas bon et il y a plusieurs choix qu'il fait qui ne seraient pas mes choix. Mais à côté de ça, l'équipe de France parfois peut être brillante. Après, là où je suis d'accord avec Marc, c'est que je trouve que quand ça ne marche pas, il n'y a pas assez de réaction. Il attend beaucoup trop longtemps. Je veux dire, si tu vois que ça marche pas, tu peux changer beaucoup plus vite. Et je trouve que, et même à l'Euro 2016, souvenez-vous, on voyait très bien ce qui se passait lors de la finale notamment.
Exactement.
Et les réactions arrivaient trop tardivement. Et là, même dans les matchs amicaux, où en plus, t'as aucun risque, parce que tu peux faire tous les changements que tu veux, parce qu'il s'est arrangé avec les sélectionneurs, tu dois changer beaucoup plus vite. Ça sert à rien d'attendre la 60e minute.
Après, il est sur le temps de jeu, Karine. Comme il est sur le temps de jeu, il part du principe qu'il nivelle un petit peu le temps de jeu de tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif. Allez. Et qu'on n'avait pas vu chez Didier Deschamps, c'est que je trouve qu'en football, la force d'un sélectionneur, c'est d'accepter de régresser pour essayer quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'avait jamais joué dans ce système. Et pour progresser, parfois, il faut accepter de régresser. Les golfeurs font ça. Ils changent un petit peu leur façon de tenir leur je sais plus comment on appelle
leur
ça.
Leur golf,
ou je sais pas ce qu'on veut.
Et ou leur club.
Aujourd'hui, ou leur club. Et pour les sélectionneurs, c'est un peu un nouveau système pour Deschamps. Peut-être d'accepter de régresser peut lui permettre de trouver des solutions ou une animation différente et de faire en sorte que cette équipe de France, sur cette Coupe du Monde, soit performante.
Mais là, tu vois, Bib, le problème, c'est qu'on prend l'exemple de l'Allemagne qui, la saison passée, sur la Coupe des Confédérations, a mis une équipe très jeune avec un patron qui s'appelle Draxler. Ils ont gagné ce gouvernement et ils ont changé le système de jeu. Non, nous explique, comme dit Nabil, c'est depuis 2-3 matchs. Ben, on va changer finalement. Mais là, c'est pour moi, c'est suicidaire de faire ça maintenant parce qu'on nous vend quelque chose depuis 2 ans. Donc attention aujourd'hui. J'entends ce que tu dis, mais alors il fallait le faire il y a un an et demi, il y a un an, et là on nous le fait maintenant. Et j'entends les joueurs qui vont commencer à dire, puisque Pogba a dit non mais je joue à gauche mais je me sens bien, il faut que je m'adapte. J'ai entendu adapter après les USA face aux États-Unis, les joueurs doivent s'adapter. Là on va trop loin, je pense qu'on va trop loin. Ils se rendent pas compte, je pense.
On y reviendra évidemment, cette équipe de France, les prochains jours, n'est-ce pas, Antoine Grenier, parce que vous restez auprès d'eux, hein, vous allez nous raconter tout ce qui se passe là-bas.
Entraînement demain à nouveau avec les Bobettes, cette fois-ci ouvert au public. Il y a des invitations qui ont été distribuées notamment au personnel de l'ambassade de France. Un petit mot sur le débat pour conclure.
Oui, Antoine.
On ne gagne pas une grande compétition sans un grand gardien et Hugo Lloris actuellement n'est pas au niveau. Voilà, je pose ça là, vous pouvez en parler si
elle est dure, elle est touchée. Lui, il l'attend en bas en fait. On se rend pas compte, mais nous on le voit au ralenti. Mais lorsqu'elle part là-bas, lui il l'attend en bas. Et comme elle est touchée, elle monte.
Sur la séquence, sur les cinq derniers matchs.
Voilà, non, mais je suis d'accord. En plus, même avec Tottenham, il a fait de grosses erreurs cette saison.
Mais il a pas perdu Tottenham à chaque fois. Ça, oui, il a pas perdu.
Mais c'est vrai que c'est pas rassurant avant un
après, il est pas peut-être non plus, même si effectivement tout à l'heure vous disiez, faut pas parler des erreurs individuelles. Mais quand même, Sidy Bé, à ce niveau-là, il peut pas faire ça. Je veux dire.
Quand tu vas 3 mètres,
c'est
pas possible.
Non, mais je suis pas en train de faire le procès de Sidy Bé.
Non, mais
moi, je pense qu'on parle beaucoup de Benjamin Mendy, mais je vous rappelle que Sidy Bé est un miraculé. Il était parti aussi pour pas faire la Coupe du Monde. Il a été rattrapé par un ostéo dans le nord, de la France. Et peut-être qu'aussi, mentalement, c'est pas si simple que ça pour lui.
Bon. En tout cas, il y a des questions autour de Hugo Lloris et on verra ça, disons, dans la suite de la compétition. Merci. Merci beaucoup Antoine, une petite chose, on a l'impression que Didier Deschamps il vous a parlé, non, à la fin de la conférence de presse.
Antoine, c'est quelqu'un, et vous le voyez, qui a la joie de vivre, qui est voilà, il a toujours le très souvent peut-être pas toujours, mais très fréquemment le sourire. Il va pas se transformer en quelqu'un qui aboie et qui reprend les autres.
C'est vous, c'est tout vous, ça, Antoine.
Ça peut venir. Non, non, ça peut venir. Je peux me mettre à aboyer.
Évidemment. Didier Deschamps qui parlait d'Antoine, mais Antoine Griezmann, bien sûr. Merci beaucoup, Antoine Grenier, d'avoir été en direct. Et donc, eh bien, à demain, hein, pour nous faire, continuer à nous faire vivre ces bleus, dans Radio Foot International. Merci. Merci, Antoine. On va rester du côté de la Russie avec eh bien Régis Janté qui va nous parler aujourd'hui du commentaire sportif à l'ère soviétique. Notre rendez-vous avec Régis Janté, l'histoire du football russe, objet d'un livre du correspondant de RFI dans le Caucase, Football, le ballon rond de Staline à Poutine, livre qu'il viendra donc nous présenter mercredi dans Radio Foot. Reprenons donc le fil d'une histoire très politique à l'ère soviétique avec vous, car vous allez nous parler aujourd'hui eh bien, des commentateurs de matchs de l'équipe d'Union soviétique et de leur travail, surtout en radio comme en télé, qui était, disons, très spécial, Régis.
Dans un régime totalitaire, tout est politique. Le commentateur doit donc impérativement faire passer le message que les autorités veulent diffuser, les valeurs promues, qui est ami, qui est ennemi. Et la question de la retransmission en direct, exigée par le sport, va devenir très sensible. En URSS, les journalistes sportifs vont être les premiers, avant leurs confrères du journal du soir, à parler véritablement en direct au peuple. C'était vraiment très lourd, très important. Il n'est donc pas étonnant que le père des commentateurs sportifs soviétiques, à la radio, soit Vadim Sinyavsky, parce que c'est un héros qui a combattu les Allemands armes à la main et a couvert comme reporter officiel les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Il est idéologiquement impeccable.
Et ce commentateur radio, loyal donc à l'idéologie Vadim Sinyavsky, va passer à la télévision.
Brièvement, en fait. C'est une nouvelle génération qui arrive et qui va le faire, notamment Nikolai Ozerov, le grand reporter soviétique de l'après-guerre. C'est l'époque de Khrouchtchev, fini Staline et la brutalité inouïe du régime. Époque aussi où l'on construit des millions de logements, où chacun retrouve un appartement individuel après les communalki que l'on partageait entre plusieurs familles. Bref, c'est très important. C'est le retour à une certaine intimité. On s'adonne au plaisir de regarder la télévision. Luxe encouragé par le Kremlin, d'ailleurs. Parce que le problème du pouvoir est désormais de dispenser son idéologie dans ce cadre plus libre. Et pour cela, le sport permet de garder le citoyen devant le poste et de lui coller de la propagande juste avant et juste après le match, par exemple. Et Nikolai Ozerov est parfait, il divertit, il sait faire vivre le sport et en même temps, l'air de rien, il diffuse l'idéologie soviétique.
Mais Régis, aujourd'hui, en radio comme en télé, on écoute de vrais commentaires sportifs.
Effectivement, on y vient avec Ozerov, et puis ceux qui vont prendre le relais dans les années 70 sont eux-mêmes des ex-sportifs professionnels, des footballeurs comme Malachenko ou Peritourine, ou des hockeyeurs comme Yevgeny Mayorov. Mais je dois aussi mentionner le géorgien côté Mahaladze, signe que les républiques soviétiques prennent de l'importance vis-à-vis de Moscou, qui, et lui, il pratique un commentaire assez poétique, culturel, plein d'humour. Une fois, il a dit par exemple, eh bien, pendant que le ballon est en l'air, ce qui ne dure que quelques secondes, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous donner la composition des équipes.
Merci Régis Janté, à demain pour la suite de cette histoire. On quitte l'Est de l'Europe, mais en restant sur la Coupe du Monde, et pour évoquer les équipes africaines de cette compétition. On en a beaucoup parlé, évidemment, ces derniers temps. On suivait leur préparation. Mais là, on va essayer d'évaluer leurs forces et leurs chances. Leurs chances peut-être dues au hasard, hein, vu le tirage au sort. Alors, plus hasard que travail. On va le voir. En tout cas, Égypte, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie. 5 équipes pour défendre les couleurs du continent africain. Et une question au vu de leur qualification et de leurs matchs amicaux. Quelle est l'équipe qui vous paraît, disons, la mieux préparée pour aller le plus loin ? Alors, on va écouter eh bien, José Mourinho, l'entraîneur de Manchester, sera consultant durant la compétition. Il sera en Russie et il a livré ses pronostics pour le premier tour. Écoutons l'équipe dont il parle le mieux.
We go. Finally, group H, Senegal to win the group. And Poland to finish second.
Alors, dans le groupe H, lui, il met le Sénégal vainqueur du groupe. Vainqueur du groupe. Et la Pologne, et la Pologne. Pologne, la Pologne. Il le dit comme
c'est
ça.
Joliment dit.
La Pologne, deuxième. Colombie et Japon out. Et puis, il met le Nigeria aussi dans le groupe D avec l'Argentine. L'Argentine première, le Nigeria deuxième. Ensuite, Islande et Croatie dehors. Moi, j'aimerais vous demander à vous vos commentaires. Alors, on va demander à Habib, hein, puisqu'on parlait Sénégal. Habib.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'était sûr qu'il allait dire
voilà,
ça.
On va passer.
Non, mais et, non, je remets quand même en perspective les propos de José Mourinho. C'est un groupe qui est homogène, mais qui reste compliqué. La Pologne est une bonne équipe. Je vois la Colombie comme l'équipe, ouais, pour moi, un peu au-dessus de ce groupe, par rapport à la qualité intrinsèque de ses joueurs. Ce qui est sûr, c'est que Aliou Cissé a essayé pas mal de formules pendant ses matchs amicaux. Ils viennent de perdre contre la Croatie, même si le contenu était malgré tout intéressant, mais c'est une défaite. Et c'est jamais bon de partir avec une défaite sur un mondial, même si je pense qu'ils ont fait remise à zéro et ils vont bien travailler pendant cette Coupe du Monde. Mais je serais plutôt de l'avis de penser que la Colombie va finir première et éventuellement le Sénégal, même si après, pour le cœur, bien sûr que le Sénégal doit finir premier.
Marc Libra, des cinq équipes africaines, quelle est celle qui, pour vous, peut ou risque d'aller le plus loin?
Oui, une pièce sur le Sénégal. Après, le Maroc, d'Hervé Renard, qui a su remettre pas mal de choses en place.
Mais alors, le Maroc, vous le savez, il est quand même dans un groupe.
La poule est dure.
Hein,
mais ouais, il joue l'Iran en premier avec une confrontation Portugal.
Espagne.
D'entrée. Donc ça peut peut-être un peu changer la donne. Après, je pense que le travail d'Hervé Renard est assez important. Ce fameux match face à la Côte d'Ivoire où c'était, il y a une pression très particulière. Ils avaient été très bons. Ils avaient plié le match en 30 minutes. M'avait impressionné ce jour-là. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, hein. On s'attendait à vraiment un match
plus difficile.
Et finalement, ils ont été très bons du début jusqu'à la fin.
On va entendre justement Hervé Renard. Hervé Renard qui est le sélectionneur de cette équipe marocaine, les Lions de l'Atlas, et qui donc part à la Coupe du Monde. Vous parliez de défaite tout à l'heure, Habib. Lui, il ne part qu'avec des matchs gagnés. Et sans doute que c'est évidemment très bon pour le moral des troupes.
Oui, on est prêt. J'ai fait sortir Hakim Ziyech, par exemple, pour pas qu'il y ait de blessures avant un match capital, avant une Coupe du Monde. Et puis ça permet de faire jouer quelqu'un d'autre. Mais tout le monde est prêt, on est bien concentré. Pour la Coupe du Monde, il va pas falloir être une bonne équipe, il va falloir être une très bonne équipe. Donc être prêt mentalement, physiquement on l'est, tactiquement on le saura. Techniquement, on a de très bons joueurs. Maintenant, il faut qu'on soit tous à notre maximum pour bousculer deux équipes qui sont dans le top 10 mondial. Et puis l'Iran, dès le 15 juin, pour faire vivre à tous les Marocains une super Coupe du Monde.
Il faut qu'il emmène du miel.
Non, mais c'est important ce qu'il dit, parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment le cas. Vous pouvez pas vous permettre d'être juste bon.
Exactement.
C'est qu'il faut être très très bon pour finir.
C'est comme un concours, en fait.
Ouais, non, mais c'est-à-dire que dans les matchs de poule de la CAN, vous pouvez vous permettre d'être peut-être un peu moins bien sur une Coupe du Monde. Je pense que ça a pas la place.
Ils ont gagné sur le score de 3-1 contre l'Estonie. Ils avaient gagné l'autre match, la Slovaquie, 2-1. Et par contre, ils avaient fait match nul contre l'Ukraine, 0-0. Karine,
moi c'est mon pari
de ces cinq équipes. C'est votre pari aussi,
oui,
le Maroc.
C'est que le Maroc sortira de sa poule. Alors je me suis fait beaucoup d'amis évidemment avec les Portugais, mais
et beaucoup d'amis du côté du.
Non, mais il y a énormément de bons joueurs. Ils ont des très bons défenseurs. T'as Benassia, Romain Saïs, l'ancien Angevin. T'as Belanda, t'as Amina. T'as un collectif, t'as en plus un calendrier qui est quand même extrêmement favorable parce qu'ils joueront en dernier l'Espagne. Potentiellement, l'Espagne sera déjà qualifiée, donc t'as plus de chances d'essayer de faire un résultat lors du troisième match. T'as un meneur d'hommes, t'as quelqu'un qui les transcende et ils ont fait une campagne de qualif incroyable. Moi, honnêtement, je vois l'Espagne et le Maroc, en tout cas, c'est mon petit pari sur cette Coupe du Monde, sortir de leur groupe. Ils ont peut-être un petit problème d'attaquant devant. En tout cas, ils n'ont pas un très grand attaquant devant, mais en tout cas, ils ont des bons joueurs à tous les autres postes. Collectivement, ça tient la route. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Et là, on vient de m'annoncer qu'Alex Dupont, l'ancien entraîneur de Brest, notamment, a été pris pour superviser les adversaires du Maroc. Pendant cette Coupe du Monde. Voilà. Mais donc, le Maroc, moi, c'est mon petit pari.
Nabil.
C'est difficile à dire. Moi, je suis inquiet pour les sélections africaines. J'ai toujours une inquiétude, j'ai peur du zéro pointé pour être franc avec vous. Le football africain est toujours discuté, il tarde encore quelque part à prouver, même si certaines sélections ont performé par le passé. Mais on peut très bien faire un 0 sur 5.
Aucune n'a encore jamais atteint une demi-finale, voilà, mais plusieurs sont arrivés en quart de finale.
Alors évidemment, le Sénégal, il y a du matos, comme on dit. Le rendu est à hauteur des ingrédients, pour moi, ils vont sortir de cette poule. Parce que le Japon, je ne pense pas qu'ils seront au rendez-vous, d'autant qu'il y a une instabilité technique très récente avec le limogeage de Vahid Halilhodžić.
Ouais. Et un nouveau sélectionneur, on sait que ça allait être un fiasco.
Ah, bon, on verra. Après, je pense que le Sénégal, quand même talentueusement, ils ont quand même beaucoup plus d'armes offensives qu'une équipe comme la Pologne qui est solide. Donc je vois la Colombie et le Sénégal. Quant au Maroc, effectivement, halte à l'emballement également, parce qu'on en fait un peu l'Algérie 2014 avant qu'ils aient joué. non mais... Il y a les ingrédients, il va falloir être à 120%, mais à un moment, faut pas non plus se leurrer. Il y a aussi des zones de faiblesse, notamment les latéraux. Dirard est incertain. Il a été très bon à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Il reconvertit Amrabat Nourdine en latéral droit. Je pense qu'Habib, t'as joué latéral droit. Je sais pas si on apprend le métier en deux matchs.
Non, c'est compliqué.
C'est compliqué. Donc, il y a des ingrédients. Il y a un bloc qui est solide. Il y a du talent avec Belanda, avec Ziyech, qui sera peut-être une des révélations de la Coupe du Monde. Mais à un moment, faut pas se leurrer non plus. T'as l'Espagne qui a dominé non pas le football européen, mais le football mondial il y a encore quelques années. Et de l'autre côté, qu'on le veuille ou non, t'as quand même l'équipe du Portugal, certes. C'est pas Copacabana, mais c'est le champion d'Europe en titre. Donc, c'est une poule qui est difficile. Quant à l'Égypte, c'est une poule qui est plutôt accessible, mais je ne crois pas non plus dans cette équipe d'Égypte parce qu'on l'a réduit beaucoup trop à Mohamed Salah. On est loin de l'équipe d'Égypte 2006, 2008 ou 2010 collectivement. Reste la Tunisie dont personne ne parle,
qui est en train de faire. Elle a fait des très bons matchs préparatoires, n'est-ce pas?
De préparation et un peu à l'image du Maroc, va falloir être bon contre Panama, hein, c'est ça? Oui. Panama, donc il va falloir être bon contre Panama.
Belgique et Angleterre après, ensuite, bah, dans le même groupe.
Les Tunisiens, les Anglais ont toujours des soucis avec les équipes maghrébines quand ils tombent en Coupe du Monde. En Algérie, contre l'Algérie en 2010, contre la Tunisie en 98, ça n'avait pas été non plus forcément simple.
Ils avaient gagné 2-0 quand même.
Mais oui, ils avaient gagné 2-0, mais cette équipe tunisienne. Attention, voilà.
Je résume, donc le Sénégal sera premier du groupe et sûrement l'équipe africaine qui sera la mieux.
Et attention, et on n'a pas parlé du Nigeria de Gernot Kroc, qui est une équipe de jeunes loups qui s'est qualifiée dans une poule extrêmement difficile en Afrique avec l'Algérie, le Cameroun et la Zambie, qui a quand même des joueurs de qualité. Et puis Gernot Rohr a été intelligent, il a fait un travail de détection qui a été bon. Il a été chercher un Balangoun, par exemple, en Allemagne, qui est un bon défenseur central qu'on va voir sur cette Coupe du Monde. Certes, la poule est compliquée, mais le Nigeria, c'est l'équipe africaine qui a réussi jusqu'à présent à trois fois atteindre les huitièmes de finale. Donc il y a une culture quand même du côté de cette équipe des Super Eagles.
Justement, je voulais vous questionner sur cette équipe du Nigeria. Souvent, elle tombe avec l'Argentine dans le groupe ou ensuite dans un match mais de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que là, elle se retrouve dans un groupe avec l'Islande, qui participe à la Coupe du Monde pour la première fois, la Croatie, en laquelle vous aviez tant cru durant l'Euro, Habib, et l'Argentine. Est-ce que vous pensez que le Nigeria, ça va être compliqué pour lui?
Mais c'est peut-être l'équipe qui va le plus embêter, justement, ces Croates et ces Argentins qui aiment jouer au football, qui aiment jouer au ballon, parce qu'ils ont beaucoup de puissance. Et là où je rejoins Nabil, c'est que je trouve qu'il y a des jeunes talents, il y a des joueurs assez exceptionnels dans cette équipe. Il y a Iwobi,
il y a
Nacho, qui est un très très bon joueur, et je crois que le collectif est beaucoup plus fort que les individualités par le passé. On ressortait souvent des joueurs individuellement sur cette équipe du Nigeria. Exactement. Et je trouve que le collectif, lorsqu'ils l'ont fait sur cette qualification de Coupe du Monde, en sortant des équipes quand même de qualité, ils ont montré énormément de puissance et de bloc collectif. Et ça, c'est incarné par Gernot Rohr, qui a fait un très très bon travail. Donc j'ai toute confiance en cette équipe du Nigeria pour vraiment embêter ces équipes qu'on met un petit peu comme les épouvantails de cette Coupe du Monde. Parce que la Croatie,
souvent ils arrivent en huitième de finale.
C'est une équipe assez exceptionnelle aussi sur le
papier.
Mais
elle est un petit peu, alors si je peux me permettre, elle est un petit peu vieillissante, la Croatie. Alors
sur le plan défensif,
je suis pas en train de dire que, attention, la Croatie, je les ai vus face à l'équipe du Brésil, certes c'est un amical. Bon, les Brésiliens, en revanche, ils sont inquiétants. Ils risquent de pas être loin.
Non, on en parlera le jour des favoris et ça sera après-demain.
Ils risquent de pas être loin, mais cette équipe du Nigeria, il y a quand même une dynamique et Gernot Rohr, franchement, il a bien travaillé. Alors certes, la poule ne va pas être simple, mais moi, je pense qu'ils ont clairement leur mot à dire.
Ils arrivent ce soir justement hein, dans, sur leur lieu de villégiature en Russie. Non,
mais surtout que ça fait deux ans qu'il a récupéré cette sélection. Il a très bien travaillé et il a dû calmer sa fédération qui a annoncé, vu les derniers résultats, ce qui s'est passé sur les phases qualificatives, on va jusqu'en demi-finale. Donc attendez, parce que c'est ça le gros problème.
Déjà, faut sortir du groupe, hein, on le sait tous.
Non, mais après, on s'enflamme un peu. Il y a un passé, c'est vrai, mais il faut pas s'enflammer.
Après, il y a un amalgame de cadres, de plus jeunes. Ouais. Habib a parlé de Obi ou Iheanacho, mais t'as John Michael Obi qui est un joueur. Qui remplace, même s'il est aujourd'hui, il est en Chine, c'est la vraie courroie de transmission, puis il apporte de la sérénité, de l'expérience, et puis un garçon qu'il ne faut absolument pas oublier, qu'on a vu à très haut niveau, qui a une capacité physique très au-dessus de la moyenne, c'est Moses qui joue à Chelsea. Ah oui. Donc franchement,
Victor Moses.
Comme on dit, il y a quand même de la qualité dans cette équipe nigériane.
Alors évidemment, José Mourinho donnant le groupe H et en premier le Sénégal. On va écouter Sadio Mané qui répondait à Philippe Doucet, un de nos camarades de Canal+ et de vos camarades. Et c'était dans l'émission Talents d'Afrique enregistrée à Vittel. Sadio Mané qui fait une allusion à la génération 2002, Habib, ça vous fait sourire?
Ça ne sera pas facile d'oublier la génération 2002. Ils ont ouvert une belle passe du football sénégalais. C'est une référence pour nous. Maintenant, on a aussi notre propre histoire à écrire. Et sans se mettre la pression, on va essayer de prendre les matchs les uns par les autres. Et aussi, je pense qu'on a le staff qu'il faut, l'équipe qu'il faut. Et on va essayer de se donner à fond pour notre pays et surtout les rendre fiers. Tout est possible dans le football.
Bon, quand ils rentreront sur le terrain, Habib, la génération 2002, on regardera peut-être celle de 2018.
Oui, j'espère. Et c'est surtout, je le dis assez souvent, Moussa Sow a eu aussi cette déclaration un petit peu maladroite. Là, je pense que c'est pas dans ce sens-là que le fait Sadio Mané. Mais il faut surtout pas oublier, justement, ou faire oublier cette génération 2002. Ils ont une histoire à écrire, comme l'a dit Sadio. J'espère que ce sera une histoire qui sera un petit peu...
Qui s'ajoute
exactement à ce qu'on a pu faire en 2002. C'est une forme de ce qu'on appelle, historiquement, ce qu'ils appellent aux États-Unis de legacy. C'est-à-dire qu'il faut essayer de continuer ce qui a été écrit par le passé. Je suis sûr que cette équipe a vraiment énormément de talent, comme l'a dit Nabil, à l'image de Sadio Mané. Voir comment lui se sera aussi dans la tête, parce qu'il a quand même vécu deux échecs majeurs cette saison avec la perte du Ballon d'Or face à Mohamed Salah, la perte de la Ligue des Champions, physiquement. Mais je crois que Sadio a été ménagé pour justement faire une grande Coupe du Monde. Ils ont rien à envier à notre génération. Ils ont vraiment un très très bon groupe. Et puis surtout, ils sont entourés de gens qui connaissent un petit peu ce qu'on a vécu en 2002 à Aliou Cissé. On a Lamine Diatta, on a Omar Daff, on a Tony Silva. On a des joueurs qui ont vécu cet événement-là. Qui seront capables de les rassurer dans ces moments.
Bon, alors une demi-finale, Habib. Le Sénégal, ils viennent pas souvent, mais quand ils viennent, ils font pas semblant.
Mais déjà, ils font pas semblant. Et puis surtout, Nabil, pour parler de toutes ces sélections africaines, il y a un plafond de verre. On a l'impression aujourd'hui qu'est le quart de finale. Exact. Lorsqu'on arrive en quart de finale, et nous, on l'a vécu en 2002, on avait l'impression qu'on avait réussi notre Coupe du Monde. Alors qu'au vu du talent de cette équipe, je pense qu'on était meilleur que la Turquie. On aurait dû aller en demi-finale. On aurait dû. On n'y a pas été.
Les Brésiliens vous attendaient, Habib, en demi-finale.
Exactement. Donc il faudra que ce plafond de verre soit un petit peu oublié par ces sélections africaines et se dire qu'ils n'ont rien à envier à la Pologne, à la Colombie, à toutes ces équipes qui sont sur les premiers tours.
Eh bien, ça commencera bientôt pour les équipes africaines. Et en attendant, on va parler un peu sélection et gros sous. On ne prête qu'aux riches, dit un proverbe français. Hein, c'est pas un proverbe africain, Rémi Ngono, si vous m'écoutez. En tout cas, cela suffit-il à en faire un champion de Coupe du Monde? Un palmarès a été établi par le Centre international d'études et du sport, c'est le CIES qui est ce centre d'études de Suisse, et ils ont publié un palmarès de la valeur financière des équipes. La France se retrouve en 1. C'est la France qui a l'effectif le plus cher, c'est-à-dire le plus qui se valorise ou qui est le plus valorisé, hein, avec 1,4 milliard. Ensuite, en numéro 2, on a l'Angleterre, le Brésil, l'Espagne, Argentine, Allemagne. Alors, le Sénégal vient en 12e place, et c'est sans doute grâce, à un joueur comme Sadio Mané, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de classement? Qu'est-ce que ça enseigne? Est-ce que ça peut avoir un rôle sur la Coupe du Monde, Karine?
À mes yeux, ça n'a aucun intérêt. Je suis désolée, ma chère Annie, parce que on voit bien qu'il y a des soi-disant valeurs données à des joueurs, mais sur le terrain, ça ne veut rien dire. Je veux dire, Pogba, il a été acheté 100 millions, c'est très bien, mais sur le terrain, est-ce que il vaut 100 millions? Pas forcément. Voilà, il y a des prix qui sont donnés à certains joueurs, et au final, le rendement sur le terrain n'est pas forcément au rendez-vous. Mais par contre, en termes de merchandising, etc., là, Pogba, c'est une réussite. Total. marketing. Moi, quand je vois juste la qualité des joueurs, dans ce cas-là, j'ai plus envie de mettre le Brésil en avant, parce que le Brésil a un collectif magnifique et des individualités également qui font partie pratiquement des meilleurs à chaque poste au monde. Mais après, de savoir que l'équipe coûte 1 milliard, 2 milliards ou 500 millions, honnêtement, pour moi, ça ne veut rien dire.
Ça situe un potentiel et puis ça nous donne une grille de lecture sur le football d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France a aujourd'hui le plus de jeunes à fort potentiel. C'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui sur le marché. C'est plus les joueurs confirmés de 28 ou 29 ans qui sont transférés à 200 ou 150 millions d'euros. Ça veut dire tout simplement que en termes de potentiel, en termes, j'ai envie de vous dire, de nappe phréatique, entre guillemets, on est peut-être les mieux pourvus. Quoi,
mais pourquoi, pourquoi Nabil ? Parce que tu t'exportes. Aujourd'hui, oui. L'Angleterre aujourd'hui s'exporte qu'en Angleterre. Harry Kane aujourd'hui, il a peut-être pas
et
l'intention.
Pourtant, ils sont deuxièmes.
Ils sont voilà. deuxièmes.
C'est-à-dire, oui, mais aujourd'hui, ils restent en Angleterre. C'est-à-dire que concrètement, ils font des transferts
entre
Tottenham, Manchester City.
Entre eux.
C'est entre eux. Donc,
mais nous,
donc,
on exporte, les Français, on exporte du vin et on exporte des joueurs de foot.
Oui, mais on exporte des joueurs de foot parce qu'aujourd'hui, le système fiscal en France n'est pas fait pour que les clubs français puissent aujourd'hui garder ces pépites-là. On n'a pas le potentiel économique pour justement mettre,
on l'a dit.
Oui, à part le PSG, mais le PSG aujourd'hui, il y a combien de joueurs français dans cette équipe?
Il y en a, et ils ont peut-être envie de partir.
Ouais, Rabiot.
Oui, il y en a d'autres. Mais je veux dire, c'est 80% de l'effectif est étranger, donc faut avoir cette lecture. Ouais, pour moi, c'est un petit peu comme les statistiques. C'est-à-dire que c'est le reflet d'une certaine réalité. C'est-à-dire que, oui, ça vous montre que malgré tout, ces équipes-là qui sont, en tout cas, ces sélections qui sont évaluées à 1 milliard seront sûrement dans le dernier carré ou dans les 8 derniers.
C'est une tendance. C'est une tendance. C'est comme les budgets des clubs. Vous pouvez avoir le premier budget et finir 3e ou 4e. Eh ben, la France, elle a peut-être sur le marché, le premier, elle va peut-être finir 3e ou 4e.
Le Real Madrid n'a dépensé 0 euro cet été. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Là où le Man City, on a dépensé 250.
Oui, et puis t'as quand même l'Angleterre en 2e au classement, alors que l'Angleterre nous déçoit à chaque fois. Alors là, on a envie d'y croire, mais c'est quand même une sélection.
On a envie d'y croire à chaque fois.
Voilà, on a envie d'y croire à chaque fois. C'est quand même une sélection qui est extrêmement jeune et qui a aucune référence, mais parce que les transferts comme John Stones, par exemple, qui a coûté une fortune, alors que c'est il fait pas partie des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais il est l'un des défenseurs centrales les plus chers. Voilà. Donc,
après, Marc. Moi, c'est pareil, ces sondages, ça sert pas à grand chose. Après, malheureusement.
C'est pas un sondage, hein, quand même. C'est une étude d'un centre universitaire.
Mais j'aimerais bien savoir s'ils ont intégré le truc pour les joueurs africains, parce que nous, moi, je suis habitué à travailler sur le mercato. J'ai toujours remarqué que quand t'étais international africain, bah, bizarrement, c'est comme à la Côte d'Argus, tu coûtes moins cher qu'un international européen. J'aimerais bien savoir si ce paramètre a été rentré ou pas.
Si Sadio Mané s'appelle Sadio Maninho, il coûte 150 millions.
Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est ce genre de choses, il faut pas y croire. Malheureusement, quand on est acteur de ce système-là et qu'on commence à croire ce genre de choses et les gens croient, ah, mais oui, ça fait, enfin voilà, après, ça devient, on a vu la clause d'Umtiti qui est passée à quoi? 500 millions, la clause d'Umtiti. On part dans tous les sens et on fait n'importe quoi. Donc, pour moi, ça n'a aucune importance et ça sert pour moi à rien de faire ce genre de choses parce que je voulais revenir sur ça. Sadio Mané aujourd'hui, on fait quoi sur lui? Mohamed Salah, on fait quoi aujourd'hui sur lui? Certains disent, on espère qu'il sera au niveau du Ballon d'Or. Malheureusement, si son épaule lui permet de jouer une Coupe du Monde et de réussir, mais autrement, c'est pas possible. Quoi. Il y a toujours un écart abyssal entre les pays africains et les autres.
Évidemment, rentre dans ce palmarès aussi et dans cette étude. En fait, c'est la valeur du joueur qui influe le plus sur la cotation, on va dire, de son équipe. Et c'est vrai que pour l'Égypte, c'est évidemment Mohamed Salah qui rentre dans 74% de la valeur des joueurs de son équipe.
En fait.
Alors que par exemple, Messi, tout Messi qu'il est, ne rentre que pour 20%, donc ça veut dire qu'il est mieux entouré.
Transférable surtout. Ça sert à rien de l'évaluer, il est intransférable.
Ça c'est sûr. Cristiano Ronaldo, intransférable ou pas, lui il vaut 16% en gros de...
Je mets tout ce que j'ai, il restera au Real Madrid. Les gens qui disent il va partir, il sera au Real Madrid. Il
attend juste que...
Oui, bien sûr.
Oui, mais juste un petit peu
d'amour, un petit peu de rallonge.
La vraie question Real de Madrid, c'est quel entraîneur? C'est pas de savoir si Ronaldo...
C'est surtout ça le problème, il attend ça à mon avis.
Je crois qu'il est pas le seul, parce que tous ceux qui pourront éventuellement aller jouer au Real Madrid.
C'est pour ça que je me pose la question de savoir si j'y vais ou pas. Marco aussi.
Habib, on veut bien faire votre campagne d'ici de Radio Foot International. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous avez entendu Antoine Grenier qui était en direct de Russie et qu'on retrouvera tous les jours jusqu'au premier match de l'équipe de France. Merci aussi à Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. Et on se dit donc à demain. Merci à tous.